Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Aujourd'hui, vous interrogez la notion de puissance alimentaire.
Voilà, à propos de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris demain. Donc, pourquoi cette notion de puissance alimentaire? Notre invité, Stéphane Dubois, professeur de géographie en classe préparatoire. Le temps quand même de ne pas oublier d'annoncer donc l'émission demain sur Arte à 19h30 de nos amis du Dessous des Cartes, en partenariat avec les enjeux internationaux. Ils sont consacrés à l'Afrique, l'Afrique dans le maintien de la paix. Et on pourrait écouter évidemment Amandine Nanguenon hier. Dans l'émission d'hier, effectivement. Donc, franceculture.fr. Alors, en ce qui concerne effectivement l'agriculture, on le sait bien, c'est une activité qui participe directement de l'économie mondiale. Elle s'inscrit dans les rapports de force interétatiques. Elle devient un instrument de puissance. On parle de puissance alimentaire. Alors, dans quel contexte, où, comment cette notion est-elle apparue? Pourquoi est-ce qu'elle est proche, parente de celle de sécurité alimentaire que recherchent d'abord les États pour eux-mêmes? Quelles sont les manifestations de cette puissance alimentaire, les méthodes, de la réussite, bien sûr. Pourquoi les États-Unis apparaissent-ils comme le modèle de cette puissance? Et puis, est-ce qu'ils vont conserver ce pouvoir sur les autres? Bien des questions et donc des éléments de réponse avec Stéphane Dubois sur cette notion de puissance alimentaire.
Cette notion, c'est une notion qui, initialement, relève de la géopolitique. C'est le secrétaire à l'agriculture états-unien Earl Butz qui, dans les années 70, parle de l'alimentation qu'il faut percevoir comme étant une arme. Donc, ça veut dire que l'agriculture devient un facteur de puissance capable d'imposer une volonté, capable de porter des moyens de coercition. Et à cet égard, cette arme, elle repose sur quelques vecteurs. Tout d'abord, bien sûr, un complexe agro-industriel qui doit être surpuissant et projeté à l'international. Et puis, historiquement, des vecteurs comme les embargos, les guerres commerciales, et puis cette capacité aussi à créer une dépendance chez ses rivaux, chez ses adversaires, une dépendance agricole. Pendant la guerre froide, on sait que les États-Unis étaient parvenus, comme cela, à créer une telle dépendance chez les soviétiques, qui importait en masse des millions de tonnes de blé. Alors aujourd'hui, cette vision géopolitique a plutôt tendance à s'émousser. Cette arme alimentaire est peut-être moins incisive, eu égard au fait que l'agriculture et le commerce agricole se sont fortement mondialisés. Ce qui signifie que pour un pays, pour un État victime d'un embargo, eh bien, il est toujours possible aujourd'hui avec facilité de diversifier ses approvisionnements. Donc cette notion aujourd'hui, elle est moins géopolitique que géoéconomique. L'agriculture, elle est au cœur aujourd'hui des grands rapports de force économiques dans le monde. Donc pour un État, disposer d'une puissance alimentaire, ça signifie d'abord être capable d'assurer sa sécurité alimentaire, d'affirmer sa souveraineté alimentaire, et puis au-delà, être capable de peser sur les marchés internationaux et apparaître sur les marchés agricoles internationaux comme un interlocuteur incontournable.
Alors c'est intéressant parce que, et je rappelle que vous êtes Stéphane Dubois, professeur de géographie en classe préparatoire, et que vous avez collaboré à un ouvrage collectif intitulé « Toute la géopolitique du monde contemporain de 1913 à nos jours » aux éditions Fouché. C'est intéressant parce qu'il y a des parentés à vous écouter avec le monde de l'énergie, l'arme énergétique, levier dans les rapports de force, s'assurer sa propre indépendance et en même temps se servir encore une fois des énergies comme d'un instrument auprès de ses alliés ou au contraire de ses adversaires. Et c'est conçu au fond la sécurité, pas la sécurité alimentaire, mais la puissance alimentaire comme une quelque chose de global, c'est-à-dire qui doit être géré au plus haut niveau. Est-ce que c'est exact?
Oui, c'est tout à fait cela. D'ailleurs, lorsque cette notion est véritablement apparue, c'était l'époque du choc pétrolier, du premier choc pétrolier de 1973. Et donc pour les États-Unis, répondre au choc pétrolier par l'arme alimentaire était une stratégie qui apparaissait efficiente et qui d'une certaine façon apparaît toujours comme efficiente. Les États-Unis ont toujours cette priorité de l'arme alimentaire.
Et avec quelle modalité? On se rappelle d'ailleurs les fameux embargos sur les exportations américaines donc à l'égard de l'Union soviétique à cause de l'invasion de l'Afghanistan après 1979. Et quelles sont les modalités aujourd'hui par les États-Unis de cette puissance alimentaire?
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, la base, c'est un État généreux, qui soutient son agriculture et qui continue de le faire grassement. Le Farm Bill de 2014-2020 a été approvisionné financièrement à hauteur de 956 milliards de dollars. Ce sont des sommes colossales. L'autre grand point, c'est une agriculture et une filière agroalimentaire qui, si on peut dire, est toujours en ordre de bataille. Ça signifie que les États-Unis sont toujours le premier exportateur mondial de produits agricoles. Ils exportent 1,7 fois plus que le Brésil, que l'Allemagne, plus de 2 fois plus que la France. Ça veut dire que sur le plan agricole, ils sont toujours encore capables de susciter des révolutions agricoles grâce à des innovations de rupture, et ça remonte au 19e siècle. Alors la dernière en date, c'est la révolution agricole du 21e siècle, reposant sur le génie génétique, les OGM d'un côté, reposant aussi sur cette agriculture de précision, utilisant massivement l'informatique que les États-Unis dominent outrageusement. C'est par ailleurs aussi un réseau d'industries agroalimentaires complètement planétarisées. Prenez un groupe comme Cargill, là encore, ce sont des chiffres qui sont impressionnants. Cargill, c'est le numéro mondial de la collecte de grains, de céréales, d'oléoprotéagineux. Cargill, c'est 150 000 personnes. Cargill est présent dans près de 70 pays dans le monde. Et c'est une collecte annuelle de près de 300 millions de tonnes de céréales, d'oléoprotéagineux, en tout genre. Et à cet égard, on peut dire que l'agrobusiness des États-Unis, fortement soutenu, encadré par l'État, reste un facteur de puissance assez exceptionnel. D'ailleurs, sur certains secteurs, les États-Unis dominent encore, on pourrait dire outrageusement, un tiers du maïs mondial et un tiers des exportations mondiales de maïs proviennent des États-Unis et on est à près de 40% pour le soja. Mais pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, cette puissance alimentaire, elle est aussi, si ce n'est mise en difficulté, elle présente des signes de fragilité indéniables.
Est-ce que ça suppose quand même, ce sera peut-être la dernière question, il faudrait parler de l'Europe aussi comme grande puissance alimentaire, il faudrait parler aussi de la Chine et de ses besoins, mais est-ce que ça suppose quand même, pour développer cette puissance alimentaire, qu'on soit relativement protectionniste? Et c'est le cas évidemment souvent pour l'agriculture des États-Unis et d'ailleurs bien sûr de l'Union européenne. Est-ce que c'est une condition minimale?
En fait, les États-Unis ont plutôt quand même historiquement joué la carte du libre-échange, vu leur capacité de feu commercial. Ils ont passé des accords de libre-échange, notamment avec de gros importateurs de produits agricoles et alimentaires, la Corée du Sud, les pétromonarchies, Israël, la Jordanie. On sait que grâce à l'ALENA, ils ont réussi à pénétrer et même à déstabiliser le marché agricole mexicain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'administration Donald Trump lance un défi. C'est cette remise en cause de cette démocratie de marché reposant sur un libre-échange agricole fortement planétarisé. Mais il n'en demeure pas moins que les farmers américains ont quand même massivement voté Trump à plus de 70%, selon les estimations, signe que pour les farmers américains, il y a sans doute 3 facteurs d'interrogation forts. D'une part, un monde agricole de plus en plus clivé entre de la grande agriculture capitalistique reposant sur des entreprises productives, ce qu'on appelle le corporate farming, donc des clivages aux dépens de l'agriculture familiale, une peur du déclin, plus qu'un déclin lui-même, mais une crainte du déclin, et puis la peur aussi de voir la priorité agricole s'effacer dans les logiques politiques, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, le monde agricole aux États-Unis, c'est à peine 1,5% de la population active, et donc c'est ces 3 craintes expliquent peut-être le vote Trump lors de la dernière élection présidentielle.
Et donc Thierry Garcin, lundi, il sera question du Pakistan.
Voilà, après Stéphane Dubois qu'on vient d'entendre, Pakistan lundi avec Daniel Joanneau qui a été notre ambassadeur à Islamabad, franceculture.fr.